Bon matin à tous ceux qui sont sur la toile. Merci d'être là avec nous. Pour ceux qui sont en direct et pour ceux qui sont en différé, bien, bonjour à vous aussi. On vous invite à venir sur place, hein, ce n'est pas seulement réservé aux baptistes évangéliques, mais vous êtes le bienvenu ici et on va vous accueillir avec joie. Vous savez, le début de l'année, le mois de janvier, c'est un temps pour prendre des résolutions. Hein. C'est commun, on en fait même des farces. Les résolutions, on dit toujours qu'on en prend, mais est-ce qu'on va les tenir? C'est tout là le défi. Hein. Mais cette année, ce que je nous souhaite à tous, c'est expérimenter en 2019 une saine dépendance. Et on va voir, à partir du texte de Genèse 32, l'expérience que Jacob a vécue à Péniel, comme qu'on est appelé à vivre une saine dépendance. Concernant les résolutions, eh bien, par applaudissement, qui ici a résolu cette année de ne pas prendre de résolution? Ah, il y en a quand même pas mal, hein? Vous faites bien parce qu'en 2007, il y a une étude qui a été menée par Richard Wiseman de l'Université Bristol au Royaume-Uni, puis qui a impliqué 3000 personnes. C'est quand même important. Et cette recherche, cette étude, a démontré que 88 % des résolutions de la nouvelle année échouaient. Ça veut dire que seulement 12 % des résolutions ont tenu la route. Et ce qui a été démontré, c'est que la volonté est une ressource extrêmement limitée qui se travaille progressivement, comme la musculation. Alors, les résolutions qui réussissent, c'est celles qui, justement, sont fragmentées. Par exemple, tu es dépendant de la caféine, puis tu veux couper le café. Premièrement, tu dois trouver la source. Pourquoi tu bois tant de café? Quel besoin ça rencontre? Ensuite, tu segmentes ton objectif. Au lieu de couper le café, bien, tu vas réduire de un par jour pendant un mois. Puis après un autre mois, tu réduis. Et surtout, là où est-ce que les résolutions tiennent la route, c'est quand tu as trouvé un partenaire pour t'accompagner qui a le même objectif. Vous travaillez ensemble pour le même objectif, le taux de réussite augmente. Maintenant, souvent, on veut changer des choses dans notre vie. Hein. Par exemple, pour les dépendances. Hein. Il y en a qui sont dépendants aux appareils électroniques, à la télé. Ma part, c'est les croustilles. Alors, je dois gérer ça puis me limiter. Il y en a, puis c'est la nourriture en général. Il y en a que c'est le mensonge. Ils sont accrochés, sont incapables de ne pas mentir lorsqu'ils se sentent pris au piège. D'autres, c'est la pornographie, l'alcool, les drogues, l'argent. Moi, je suis dépendant de l'adrénaline. J'aime ça quand l'adrénaline est activée. Il y en a, c'est l'approbation des autres. Puis, il y a toutes sortes d'autres dépendances ou d'autres dieux auxquels on peut être dépendant qui nous amènent à constater à un moment donné, dire « Wow, ça m'amène où tout ça? » Certaines dépendances, évidemment, sont plus néfastes que d'autres. Par exemple, si tu es dépendant du café, ça a un impact, règle générale, moins grand impact que si tu es dépendant du mensonge ou de la pornographie. Mais ce qu'on doit considérer, c'est à savoir, là où est-ce que je suis dépendant, est-ce que ça cache chez moi une indépendance envers Dieu? Et est-ce que je veux me libérer de cette dépendance-là parce que, dans le fond, je ne veux pas dépendre de Dieu? Je ne veux pas dépendre de Dieu dans un domaine. Puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dépendre de Dieu, et en 2019, dépendre de Dieu, ça fait tellement perdant, ça fait tellement loser. Mais, savez-vous quoi? Quand on découvre notre besoin de dépendre de Dieu, c'est là qu'on trouve la vie. Puis, c'est pour ça qu'expérimenter une saine dépendance, c'est quelque chose d'extrêmement profitable. On va voir ensemble que on est souvent appelé à lutter en solitaire, mais on est appelé aussi à rechercher la vie, puis la victoire ultime qui est d'être témoin de Dieu dans nos vies. Alors, je vous invite à ce qu'on puisse se recueillir, puis ensuite passer dans le texte de Genèse 32 à partir du verset 23. Prions. Seigneur, ce matin, puisses-tu nous amener à découvrir combien c'est bon pour chacun de nous, c'est bon pour moi de dépendre de toi. Mais en même temps, c'est tellement humiliant parce que ça m'amène à reconnaître que je ne suis pas autosuffisant. Je n'ai pas tout ce qu'il faut. J'ai besoin de toi, j'ai besoin des autres. Mais Père, ton plan est parfait et c'est là qu'on trouve la vie, lorsqu'on dépend de toi. Merci de nous instruire au travers l'histoire de Jacob pour être encouragé à dépendre sainement de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 32, 23, on parle de Jacob. Il se leva la nuit même, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et leur fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela cet endroit Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Pour se mettre dans le contexte, eh bien, Jacob, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, voulait sortir en premier. Mais finalement, c'est Ésaü qui est sorti en premier du ventre. Et plus tard, Jacob comprit que c'était lui qui allait recevoir la bénédiction d'être de la descendance de son grand-père Abraham, de son père Isaac, et de lui allait naître une nation appelée de Dieu, le peuple d'Israël. Mais à l'époque, il s'appelait Jacob. Mais il savait juste que lui, il allait faire partie de cette lignée que Dieu appelait un peuple nombreux. Mais sa mère, à un moment donné, a planifié un stratagème pour que Isaac puisse lui transmettre la bénédiction, mais il y a un petit tour de passe-passe, il se déguise en Ésaü, il reçoit la bénédiction, puis c'est toute une manigance. Mais là, quand Ésaü l'apprend, il est fâché, puis il dit, « Il m'a le tué, lui, là. Je viens de réaliser ce que je viens de perdre. » Et là, Jacob quitte, et il s'en va chez Laban, son oncle, puis il reste là une vingtaine d'années. Mais à un moment donné, on voit ça dans Genèse 31:3, Dieu donne une parole à Jacob. Et ça, c'est clé, ça. Il dit, « C'est alors que l'Éternel dit à Jacob, « Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Parce que Dieu avait choisi un territoire pour dire, « C'est là que mon peuple va vivre, c'est là qu'il va se multiplier. » C'est là que ce peuple va devenir une nation témoin, un exemple de ce que c'est marcher avec Dieu. Et là, Dieu est en train de dire à Jacob, « Là, moi, je t'appelle, on s'en va dans ce territoire-là, je suis avec toi. » En d'autres mots, là, il dit, « C'est aujourd'hui que j'ai décidé de te donner la bénédiction. Avant, tu as essayé d'aller la chercher par toi-même. Maintenant, aujourd'hui, dans ce que j'ai préparé d'avance pour toi, là, je t'appelle à y aller. » Mais il y a un petit obstacle. Parce que ça arrive des fois, à l'occasion, que Dieu nous appelle, et là, on est tous confiants parce que c'est Dieu qui nous appelle, mais il y a des obstacles qui nous dépassent. Et là, Jacob, un méchant obstacle, parce que pour se rendre dans le pays que Dieu l'appelle, il faut qu'il passe par un petit chemin. Où est-ce qu'il doit retrouver son frère Ésaü? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça se peut que je me fasse trancher la gorge par Ésaü. Parce qu'à cause de moi, Jacob, eh bien, lui, il n'a pas hérité de la bénédiction. Fait que ma vie est en danger, là. Et c'est pour ça que, au verset 9, Jacob se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc, il sépare la gang en deux. Il se dit, bon, bien, si jamais eux autres en avant, ils se font tuer, bien là, on va pouvoir se sauver. Là. Il a peur, là, Jacob. Là. Alors, Jacob dit, Dieu de mon grand-père, Dieu de mon père Isaac, éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. C'est intéressant, hein? Parce qu'au chapitre 31, Dieu dit, « Je suis avec toi. » Et comment Jacob a compris ça? Quand Dieu est avec moi, ça veut dire que Dieu va me faire du bien. En d'autres mots, il va me protéger. Et c'est pour ça que quand on passe au travers une épreuve, c'est important de se nourrir de la parole de Dieu parce que c'est seulement là-dessus qu'on peut s'accrocher. Sur ce que Dieu dit, sur sa parole. C'est là-dessus qu'on a basé notre espoir. Mais, si on n'a pas lu le restant de l'histoire, on peut dire, hey, il a dû être fortifié. Là. Dieu dit, hey, je suis avec toi. Il devait être gonflé à bloc. Là. Hey, Dieu me donne une parole. Là. Je suis un conquérant. Je suis vainqueur. Non, non. La parole de Dieu nous dit qu'il est saisi d'angoisse. Jacob est saisi d'angoisse. Et c'est pour ça que là, dans ce chapitre 32, à partir du verset 23, on voit que Jacob fait face à un défi de taille. Sa vie est en danger. Est-ce que je vais croire ce que Dieu m'a dit qui est avec moi? Ou je vais pouvoir voir un jour, me voir dans ce pays auquel il m'a appelé, où est-ce que je vais être en parfaite vie et je vais voir ma descendance se multiplier et voir la bénédiction s'accomplir? Et là, c'est pour ça que l'événement se passe dans la nuit. Et ça, ça se passe dans la nuit parce que c'est là, dans la nuit, qu'il fait noir. C'est une période sombre. Et c'est long la nuit quand on reste réveillé, et spécialement lorsqu'on combat avec Dieu. Et là, il se ramasse tout seul. Et souvent, ce qui nous fait le plus peur dans l'épreuve, c'est d'avoir l'impression qu'on est tout seul. Et c'est pour ça qu'on le voit maintenant lutter en solitaire. Il est angoissé, il est saisi de peur, il est saisi de crainte, mais il sait que c'est là que Dieu l'appelle. Et ça, ça nous rappelle Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémané. Il est saisi d'angoisse. Puis il dit à son père, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce Jacob, c'est Jésus qui, lui, est prêt à faire la volonté de Dieu malgré ses angoisses. Et c'est difficile vivre l'épreuve en solitaire parce que, humainement, on le voit par les résolutions, le succès se trouve lorsqu'on est appuyé. Mais Dieu nous appelle souvent à vivre en solitaire, non pas parce qu'il veut qu'on soit des êtres solitaires, mais dans l'épreuve, il veut qu'on la vive seule, dans bien des cas, pour qu'on puisse avoir une photo, une prise de conscience tellement claire de l'œuvre de Dieu et que son plan ne dépend pas de nous, ne dépend pas de nos performances, nos qualifications, même s'il les utilise. Mais ce qui va faire toute la différence, c'est son intervention, c'est son action, c'est d'être témoin de ce qui agit et qui est fidèle à sa parole. On peut s'ouvrir de solitude par isolation volontaire, en disant « je me retire, moi je ne veux pas me mêler de rien », par isolation involontaire, on se ramasse dans des circonstances qu'on est tout seul. On pense juste à Marthe et Marie, hein? Marthe qui se ramasse tout seul à préparer le lunch, puis elle n'a pas de bonne humeur. Ou ça peut être une solitude incontournable, comme celle d'ici de Jacob. Et on parle de cette solitude-là, par exemple, dans le psaume 118.5, 118.5 et psaume 18.19. Et donc, Jacob passe par le gué de Jabbok, et qui veut dire qu'il se vide, et lui, il se pensait seul. Et Pierre nous en parle dans 1 Pierre 5.9, comme quoi souvent, on a l'impression qu'on est seul, mais on ne réalise pas, il y a plein de gens comme nous qui vivent sensiblement les mêmes défis que nous. Mais ce qui est intéressant dans cette solitude-là, dans cette lutte en solitaire, c'est que ça l'a amené Jacob à prier. Et dans ces temps, si vous regardez en arrière, vous faites une rétrospective de tous les défis auxquels vous avez fait face, puis vous vous êtes senti seul, puis vous vous êtes demandé, « Bien, pourquoi je n'ai pas eu de l'aide là-dedans? Pourquoi personne s'est soucié de moi? » Mais que, si on analyse, on peut dire qu'on a vu la main de Dieu malgré tout. Et c'est pour ça que dans l'épreuve, lorsqu'on a un défi auquel le Seigneur nous présente, qui nous amène dans une voie où est-ce qu'on fait face à un défi, mais c'est là qu'on doit rechercher la vie. N'oublions pas, ça se passe dans la nuit. C'est là qu'on a moins d'énergie, on est moins vigoureux, on est moins patient, et ça semble toujours interminable quand quelque chose se passe la nuit. Mais la clé, ce que Jacob a compris au fil des ans, c'est je dois reposer ma foi sur Dieu, je dois dépendre de lui. De lui dépend la bénédiction, de lui dépend que je vais m'en sortir, de lui dépend que je vais arriver là où est-ce qu'il m'appelle à aller. Il dit, et c'est pour ça qu'il va dire, il va se battre avec lui, il dit, non, moi je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est arrogant? Il dit, moi, je la veux, la bénédiction, il faut que tu vas m'en donner. Non, il n'y a pas cette attitude-là, Jacob. Jacob, il dit, puisque Dieu m'a donné une parole, puisque Dieu m'a parlé, je vais la réclamer parce que c'est lui qui veut que je l'aille. Je ne viens pas la chercher parce qu'elle me tente, parce que je la convoite. Je veux la chercher parce que c'est lui qui veut m'en donner. Mais ce n'était pas dans son ADN à Jacob, parce qu'auparavant, il s'organisait toujours pour aller la chercher, la bénédiction. Et c'est Osée qui nous montre, dans Osée chapitre 12, versets 4 et 5, l'attitude que Jacob avait. C'est dit dans Osée 12, 5, « Et dans son âge mûr, Jacob lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il sortit vainqueur. » Il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Bethel et là, Dieu nous parla. C'est dans la supplication, c'est dans les larmes que Jacob combattait avec Dieu. Puis, c'est un homme qui avait appris à passer au travers les conflits. Mais il savait une chose, il dit, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, Seigneur, je vais persévérer à être avec toi dans ce combat-là parce que c'est toi qui m'as promis la bénédiction. Dieu n'a jamais promis que ça allait être facile avec lui. Il a promis qu'elle allait être avec nous. Puis combien souvent on dit, mais comment ça se fait? On dirait que tu n'es pas là, Seigneur. Il est totalement là. Tu sais, quand un enfant pleure, là, tu viens de le mettre dans son berceau, tu changes de pièce, il pleure, il pense que tu n'es pas là, mais tu es là. Lui, il n'est pas conscient que tu es là. Mais la réalité, c'est que tu es là. Puis c'est pour ça que la victoire ultime, lorsqu'on recherche la vie, lorsqu'on recherche la personne de Dieu, c'est de le voir, c'est d'être témoin de ce qui est avec nous, il est témoin de ce qui nous accompagne dans la souffrance, dans la douleur. Puis c'est pour ça que Jacob a finalement reçu la bénédiction, mais le Seigneur lui a déboîté la hanche. Et parfois, ça coûte. Parfois, marcher avec Dieu, il y a des blessures. Puis, c'est au travers de la peur que Jacob a quand même reçu la bénédiction. Et il a reçu un nouveau nom, Israël, celui qui combat avec Dieu. Pourquoi? Pour donner l'espoir à ses descendants, pour donner l'espoir que quand Dieu nous appelle, même s'il y a un défi, même s'il y a des obstacles, même si on craint pour notre vie, Dieu est avec nous. Et là, Jacob pouvait dire, je peux affronter Ésaü, parce que si Dieu ne m'a pas mis à mort, si Dieu ne m'a pas achevé en combattant avec lui, parce qu'on est d'accord, si tu combats avec Dieu, je veux dire, tu as beau être M. Musk, tu as beau être Hugo Gérard, mais il n'y a pas personne qui combat avec Dieu qui peut gagner. Là. Fait que lui, il s'est dit, hey, écoute, si Dieu ne m'a pas terrassé, il m'a juste déboîté la hanche. Je veux dire, ça veut dire qu'il m'appelle dans la terre promise, ça veut dire que Ésaü ne me tuera pas. Et ça, ça donne espoir à tous ses descendants, à tout le peuple Israël, c'est que si Dieu a épargné Jacob et l'a appelé, eh bien, Dieu a résolu d'amener à l'accomplissement tout ce qu'il nous a promis. C'est pour ça qu'une foi qui repose sur la parole de Dieu, c'est une foi riche. Parce que notre foi repose sur quelque chose qui est inébranlable. C'est la parole, c'est l'engagement de Dieu qui nous a communiqué. Et c'est pour ça que Paul va dire dans Romains 11, 29, Dieu ne se repent pas de ses appels. Dieu a résolu d'accomplir son plan au travers de la lignée d'Abraham, Isaac et Jacob. De la même manière qu'on a été placé en Christ pour faire partie de l'alliance qui est entre Dieu le Fils et Dieu le Père pour pouvoir bénéficier et hériter du salut éternel lorsqu'on a mis notre foi dans Jésus-Christ qui est mort pour nous, mort pour nos fautes. Et c'est pour ça que Jacob a appelé ce lieu-là Péniel. Il a vu la face de Dieu. Il a vu la face de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé à persévérer, à dépendre de lui dans toutes les circonstances de nos vies. Parce que le plus grand obstacle qui nous empêche de lui faire confiance et de dépendre de lui, c'est d'avoir l'impression que Dieu est contre nous. Puis Dieu ne veut pas nous faire du bien. Et combien de gens, justement, se privent de marcher avec Dieu, se privent de vivre une vie avec Christ parce qu'ils ont l'impression que, ah non, tout ce que Dieu veut, c'est que je n'aille pas de fun. Chaque chose que Dieu me demande, c'est pour m'enlever du fun. Cette impression-là que Dieu est contre nous, non, non, Dieu n'est pas contre nous. C'est nous, en tant que pécheurs, qui sommes contre Dieu. Puis on n'est pas capable de croire qu'il veut notre bien. On n'est pas capable de croire qu'il est avec nous dans l'épreuve. Parce que quand ça fait mal, on a toujours l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais la dépendance qui est transformatrice, c'est celle qui nous amène à rentrer dans notre mandat de témoin. De le voir. De voir qu'il est avec nous, puis de voir, puis de comprendre qu'il, dans ce qui est préparé d'avance, puis dans ce qui est en train de façonner dans notre vie, qui est à l'œuvre. Vous voyez, par exemple, des artistes prendre des blocs de glace, puis en train de sculpter. On ne sait pas où est-ce qu'ils vont en venir à un moment donné. Puis là, il y a des formes, « Ah, c'est-tu ça qu'il est en train de faire? »« Ah non, OK, oh, bon. » Puis là, je ne sais pas, moi, il est en train de sculpter un pingouin. Puis là, c'est à la fin qu'on voit toute l'œuvre, le chef-d'œuvre. Mais en cours de route, on n'est pas capable de dire... Mais celui qui est en train de sculpter, il le sait, lui. Et c'est pour ça que nous, quand Dieu est en train de façonner notre vie, on doit lui faire confiance. Mais ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est d'avoir recours à lui et son appui, puis de chercher continuellement sa face. C'est ce que le psaume 105, puis 1 Chronique 16 nous dit. La même manière que Job, lui, dans Job 42, 5, il dit, « Mon oreille t'a entendu, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Qu'est-ce qui fait de la différence entre quelqu'un qui pratique une religion et quelqu'un qui a une relation avec Dieu? C'est que celui qui a une relation avec Dieu s'appuie sur sa parole, puis ce qu'il recherche, c'est être témoin de l'intervention de Dieu, témoin de l'action de Dieu, témoin de la signature de Dieu dans sa vie. Puis c'est pour ça que Jésus, ce Jacob qui est dans le jardin de Gethsémané, est pris de la même émotion, la même angoisse. Et Jésus dit, moi, là, « Seigneur, je vais y aller à la croix parce que tu m'appelles à être l'objet d'un salut, à être la source d'un salut, à être l'origine d'un salut pour une multitude. Puis la vie des autres en dépend. Puis c'est ton plan qu'on a résolu ensemble d'accomplir. En persévérant, en combattant avec Dieu, en réclamant la bénédiction que Dieu a promis à Jacob, mais ça a amené Jacob à entrer dans la terre promise, et il y a toute une descendance qui en a bénéficié. De la même manière, Jésus, en obéissant à son Père et en allant à la croix, il y a toute une descendance de la lignée de Jésus, ce nouvel Adam, qui bénéficie de la vie éternelle aujourd'hui, puis on en est de ceux-là. C'est pour ça, cette année, acceptons d'être dépendants de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est appelé à chercher qu'est-ce que tu as à me dire, comment tu peux me préparer à vivre cette expérience-là, où est-ce que tu veux m'amener à être de plus en plus dépendant de toi. Vous allez me dire, ouais, mais écoute, Éric, c'est bien facile à dire, là, mais en pratique, là, dépendre de Dieu, là, c'est pas si facile que ça. Écoutez, le Pew Research Center nous dit que 90% des Américains possèdent un téléphone cellulaire. Pour les Français, vous appelez ça un portable, puis les autres gens dans la francophonie, vous appelez ça un appareil mobile. Mais écoutez bien, 67% des propriétaires de cellulaires vérifient leur téléphone pour y rechercher des messages, des alertes ou des appels. Comment ça se fait qu'on est capable d'être dépendant de notre appareil mobile, mais pas de Dieu? On est des êtres créés pour dépendre. Puis, vous savez quoi? On a eu une leçon ce matin dans le journal Le Droit. Connaissez-vous Sabrina Mongeon, celle qui a eu un accident l'an dernier, dans le temps des fêtes, et ça l'a amenée à se faire amputer les bras et les jambes? Une personne de la région ici. Mais savez-vous quoi? Après une épreuve comme ça, là, il y a bien des gens qui auraient dit « Hey, ma vie est finie puis je ne veux plus rien savoir. » Mais savez-vous quoi? Ce qui l'a aidé à passer au travers, c'est qu'elle dit « J'ai accepté un défi qui m'a dépassé. J'ai accepté de demander de l'aide. » C'est humiliant quand tu dis « faut que quelqu'un me gratte le dos quand ça me pique parce qu'elle n'a plus de bras et elle n'a plus de jambes. » Puis ça, c'est minimal. Imaginez tout le reste. Tu n'as pas de bras, tu n'as pas de jambes. Je vous passe des détails. Mais aujourd'hui, elle est installée chez son père à Laval parce qu'elle reçoit des traitements puis tout ça, puis elle apprend à composer avec cette nouvelle réalité. Puis elle a été engagée pour être l'ambassadrice d'une campagne de sensibilisation sur la santé mentale, la Fondation Équestre Red Robin, qui c'est une fondation qui finance des projets où est-ce que des gens sont en interaction avec des chevaux, puis ça les amène à retrouver un équilibre, puis ça l'amène à avoir une connexion, une affectivité, une saine affectivité. Et elle est ambassadrice, elle a retrouvé sa raison d'être. Elle a dit, maintenant, moi, je suis handicapé, j'ai de la difficulté, mais je ne me laisserai pas abattre, puis ce que j'ai reçu, bien, je vais en faire profiter aux autres pour qu'il y ait de l'espoir. Nous, qui avons tous nos membres, on ne peut pas tirer exemple d'elle et dire, on va dépendre de Dieu, puis ce qu'on a reçu, on va le donner. Puis au travers des épreuves, on va arrêter de se demander pourquoi on l'a reçu, mais on va plutôt se poser pour qui j'ai reçu cette épreuve-là, parce que j'ai quelque chose à donner à d'autres personnes. Puis de la même manière que Jacob a demandé à Dieu de le bénir, parce qu'il avait reçu une parole de sa part, il savait que la bénédiction lui revenait, parce que c'est Dieu qui l'a appelé dans la terre promise. Et si Dieu me rappelle, si Dieu m'appelle dans la terre promise, c'est qu'il n'a pas l'intention de me faire mourir par la main d'Ésaü. Certainement, l'épreuve va arriver dans nos vies en 2019. Mais là, c'est le temps de se préparer. De la même manière qu'on se prépare pour l'hiver, hein? L'hiver, moi, elle m'a pris de court, parce que la neige est arrivée plus vite que j'avais prévu dans mon plan. Là, l'an prochain, je vais me préparer plus tôt. Parce que d'habitude, je mets une toile sur le gazon pour pas que les petites roches se ramassent. Puis là, pif, la neige est arrivée en novembre. Je me suis fait avoir, comme on dit en bon québécois. Mais de la même manière qu'on se prépare pour l'hiver, on réorganise notre remise, on place, par exemple, ceux qui ont une souffleuse à un endroit spécifique pour être sûr qu'elle sorte comme il faut quand la neige va sortir. On se prépare pour l'hiver. De la même manière, on doit se préparer pour l'épreuve. Ça veut dire quoi, se préparer pour l'épreuve? Ça veut dire de prier, demander à Dieu, de dire, quand je lis ta parole, donne-moi des promesses. Parce que quand l'épreuve va arriver, je vais avoir des paroles que tu vas me rappeler puis dire, hey, je n'ai pas à craindre, tu es avec moi. Si Jacob ne s'est pas fait tuer par Ésaü, c'est parce que tu l'as appelé dans ta promise. Moi, il va avoir une épreuve, ça va me faire mal, ça va peut-être me déboîter la hanche, Seigneur. Mais là, j'ai besoin des paroles sur lesquelles m'appuyer parce que je veux que ma foi s'appuie sur toi. Dans le psaume 94-19, je vous invite à le prendre en note, 94-19, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées. » Ah, tu sais, quand ça commence, comme le hamster commence à tourner, là. Ah, non, puis t'as coup, puis t'as coup, puis là, d'un coup, puis là, ça, il va arriver ça, puis là, il va dire ça, puis là, il va se passer ça, puis là, l'angoisse monte, là, tes pulsations cardiaques augmentent, puis là t'es tout confus, t'es tout mêlé, t'es pris d'angoisse, d'anxiété. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Et donc, se positionner pour les recevoir, ces consolations-là. Où est-ce qu'il se trouve, Seigneur, tes consolations? Et c'est pour ça qu'en conclusion, c'est important qu'on puisse avoir la perception de Dieu. Parce que quand on a une mauvaise perception des choses, ça peut aller plus mal si on prend des mauvaises décisions. Et on va voir un sketch qui dure une quarantaine de secondes qui nous montre qu'avoir la mauvaise perception des choses, ça peut créer des problèmes. Une Porsche, imaginez. Je ne sais pas si Mathieu Farley aimerait ça qu'on fasse ça avec Saoudi, mais... Notre perception des choses, notre perception de Dieu, notre perception du plan de Dieu, notre perception de l'épreuve, notre perception de l'opposition, notre perception des obstacles, notre perception, si on n'a pas la perception de Dieu... Si je ne suis pas en train de voir que Dieu est à l'œuvre, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, si je ne suis pas dans cet état de « j'ai accepté de ce que Dieu m'amène à dépendre de lui », ça va nous amener à prendre des décisions puis à réagir en dehors du plan puis du cœur de Dieu. Puis c'est pour ça qu'on doit dépendre non seulement de Dieu, mais de son évangile. Parce que même si Dieu nous y appelle, humainement, on n'est pas capable. Tellement même, si vous lisez dans Matthieu 26, la séquence quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané puis il est pris d'angoisse, et vous, qu'est-ce qu'il dit? Dieu fait homme, qui est pris d'angoisse, qui là, il dit, je m'en vais à la croix, je le sais qu'est-ce qui m'attend, je sais ce que je vais souffrir. Puis physiquement, puis aussi la plus grande souffrance qui faisait peur à Jésus, c'est d'être séparé de son Père. C'est vous, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit à ses disciples autour de lui, il dit, venez avec moi. Je veux que vous soyez ici autour de moi. Il a besoin de ses chums dans ce moment-là pour l'entourer parce qu'il savait que ça allait être tough, ce qu'il allait vivre. Et ça nous montre que le Seigneur a une provision. Mais pour ça, ce qu'il nous demande, c'est s'humilier et demander à Dieu qu'il vienne à notre secours, qu'il nous aide. Et parfois, ça doit nous amener à dire, « Bon, mais Seigneur, je dois m'humilier puis aller demander de l'aide aux autres autour de moi parce que je n'y arrive pas. » Et ça, surtout pour un homme, un mâle, c'est très humiliant. parce que je suis en train de dire aux autres, je ne suis pas capable. Mais Dieu appelle des incapables et veut se glorifier. Dieu a appelé un peureux, a appelé un gars qui a toujours essayé de s'en sortir par toutes ses manigances, à affronter le Seigneur, à affronter quelqu'un qui menaçait de le tuer. Il a protégé sa vie, puis a fait de lui un symbole d'espoir pour tout un peuple et une image imparfaite, mais une image de notre Seigneur Jésus qui a décidé d'être dépendant du plan de Dieu et de son Père jusqu'à la mort. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, peux-tu nous montrer pourquoi on est si indépendant de toi? Pourquoi on te fuit? Puisses-tu nous amener à la croix, Seigneur? Pour qu'on puisse remettre nos craintes, nos angoisses et te confier les endroits de nos vies où est-ce qu'on veut protéger parce qu'on veut demeurer indépendant de toi? Seigneur, apprends-nous à dépendre de toi, de ton amour, de ton évangile, de ta grâce, dépendre de ta provision, de ta parole, dépendre de la direction de ton esprit, de sa consolation. Merci de nous donner d'être une église qui dépend de toi et qui, chacun de nous, qu'on puisse trouver notre place pour être au bon moment, au bon endroit, pour encourager, édifier, fortifier tous ceux qui sont dans le besoin, parce qu'un tour, ça sera le nôtre. Merci de nous donner ce qu'on a reçu, de nous donner pour qu'on puisse donner ce qu'on a reçu de toi. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen.